recentrez sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Toyota.
Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota EcoCross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota EcoCross est à partir de seulement 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota EcoCross Dynamic LLD 37-30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Lénaïque Monnier pour le journal.
Le gouvernement s'offre un peu de temps. Sébastien Lecornu renonce au vote. Le budget passera par la méthode forte. Ursula von der Leyen au Brésil avant la signature du Mercosur. Le pays sud-américain grand vainqueur de ce traité. Et puis à Hollywood, un comédien a franchi le pas, breveté son visage et sa voix pour ne pas être piraté par l'IA.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, suivi de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Gauthier Battistella, ancien responsable éditorial du Guide Michelin. Il connaît tout sur les secrets des chefs, mais il est surtout chroniqueur gastronomique et il vient surtout de publier une biographie monumentale de Paul Bocuse. Face à l'impasse du budget, le gouvernement juge impossible l'adoption du projet de loi de finances par le vote.
Reste donc la manière forte. D'ici mardi, le Premier ministre pourrait revenir sur son engagement à ne pas recourir au 49-3. Les débats au Parlement, en tout cas, sont annulés. D'ici mardi, Sébastien Lecornu prendrait donc le risque d'engager sa responsabilité. Mais il hésite avec une autre piste encore plus explosive, celle de faire passer le budget par ordonnance, sans consulter le Parlement sur le fond comme sur la forme. Lauriane Toulmont.
Des ordonnances pour faire passer le budget, cet outil jamais utilisé est un levier profondément antidémocratique, dénonce le député PS Philippe Brun.
Les ordonnances sont inacceptables, ce serait donc une forfaiture démocratique, un coup d'État rampant. Si le gouvernement faisait cet usage, je déposerais, en tout cas signerais une motion de censure et je signerais aussi la destitution du président de la République. Je crois que ça interroge des valeurs supérieures. C'est un précédent insupportable et particulièrement dangereux.
L'article 49.3 est un moindre mal pour le socialiste qui espère encore négocier un accord de non-censure avec le gouvernement. La censure, c'est un risque qui explique les hésitations du Premier ministre, selon le député Renaissance Jean-René Cazeneuve.
C'est mieux d'avoir un 49.3 sur lequel on peut discuter le contenu. Et si on parle ordonnance, ça veut dire que c'est a priori le texte initial, sans modification. Si vous faites un 49.3, il y a nécessairement une motion de censure avec un risque qu'elle soit adoptée et donc qu'on n'ait pas de budget. En revanche, s'il y a une ordonnance, on a un budget. Il y aura une motion de censure, mais quel que soit le résultat de la motion de censure, on aura un budget. Donc ça a quand même beaucoup de valeur.
Le gouvernement souffle le chaud et le froid et promet de faire des propositions. Aujourd'hui, un compromis est possible, assure Matignon.
Lauriane, tout le monde pour Radio Classique.
Après plus de 25 ans de négociations, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et quatre pays du Mercosur sera signé demain au Paraguay.
Malgré l'opposition de la France, mais avant cette signature officielle, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Antonio Costa, le président du Conseil européen, font un détour par Rio aujourd'hui. Le Brésil, partenaire commercial de poids, qui représente 80% des échanges entre l'Union et les pays du Mercosur. Comment expliquer une telle hégémonie, Zoé Pallier ?
Au début des années 70, le peuple brésilien souffre encore de la faim. L'État décide donc de recruter les meilleurs ingénieurs agronomes au monde. Ces derniers travaillent pendant des années au sein d'un institut public pour apprendre à exploiter les sols acides du centre du pays, à développer des produits phytosanitaires et des OGM, organismes génétiquement modifiés. La transformation est spectaculaire. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire représente un quart de l'économie et un emploi sur cinq dans le pays. Les exploitants exportent presque partout dans le monde du soja, des oranges, du café ou encore de la volaille et des bovins. Le groupe JBS, petite boucherie familiale devenue géant industriel, est le premier employeur au Brésil. Il concentre 25% du marché mondial de la viande et dégage 375 milliards de chiffre d'affaires par an. Le secteur agricole brésilien est donc un des plus compétitifs au monde et chaque année la production continue à augmenter.
Une étape importante du plan américain pour le territoire palestinien. Donald Trump déclare que le Conseil de la paix pour Gaza a bien été formé. Le président américain ajoute que les membres de cet organe qu'il va lui-même présider seront annoncés prochainement. Retour en France et la grève des médecins de ville a pris fin après une mobilisation sans précédent et à la clé un succès. La mesure controversée qui visait à encadrer plus strictement les prescriptions d'arrêt maladie par les médecins a été retirée. Elle était présente dans le projet de loi antifraude et elle prévoyait des amendes pour les médecins qui dépassaient un certain quota. Le docteur Jérôme Marty est président de l'Union française pour une médecine libre.
Il faut savoir que les médecins, quand même, dans le projet de loi contre les fraudes, étaient mis entre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. C'est pas mal, quand même, pour considérer les médecins. Donc, ça va être retiré. On en revient à l'ancienne mouture, c'est-à-dire que le médecin a le choix entre choisir la mise sous objectif, c'est-à-dire les quotas, ou ce que l'on appelle la MSAP. La MSAP, qu'est-ce que c'est? C'est que tous les actes du médecin sont collégialement visés par le médecin de l'assurance maladie et le médecin de ville. Donc, on va discuter cas par cas. Et les patients qui ont vraiment besoin de l'arrêt, à ce moment-là, on va les justifier. C'est plus médical, oui.
La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui va tenter de conserver la première circonscription du Loiret. Il y a une élection législative ce dimanche et le 25 janvier. Vainqueur de justesse face au RN en 2024, elle joue sa place au sein du gouvernement, puisqu'en cas de défaite, eh bien dans ce scrutin qui devrait être marqué par une forte abstention, Madame Rist a promis de démissionner de son poste de ministre qu'elle occupe depuis le 12 octobre.
Radio Classique 8h06, on en parlait à l'instant avec David Barou de l'intelligence artificielle pour se protéger face aux IA génératives qui utilisent leur image sans consentement, certains acteurs résistent.
C'est le cas de l'acteur Matthew McConaughey, à tête d'affiche du film Interstellar notamment. Il a décidé de breveter son visage et sa voix pour se prémunir de toutes les utilisations malveillantes ou bien détournées qui pourraient être faites justement à l'aide de l'IA. Nina Droff.
La voix que vous entendez, celle de Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street, est désormais une marque déposée, tout comme son visage, une façon d'empêcher leur utilisation par des IA génératives, sans autorisation ni rémunération. Un geste avant tout symbolique, selon Marie-Hélène Fabiani, avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle.
Quand on dépose une marque, c'est pas pour autant que les tiers ne vous copient pas. Mais effectivement, le jour où l'IA utilisera son image ou sa voix, ça donne un arsenal juridique plus important. Il aura une base juridique supplémentaire à faire valoir dans son courrier de mise en demeure ou dans son action s'il lance une action.
Ce dépôt de marque est une première dans le monde du cinéma qui pourrait faire des émules car l'intelligence artificielle générative est un vrai sujet d'inquiétude dans le milieu.
Que ce soit par des acteurs américains, les acteurs français, enfin tous les auteurs en général se posent des questions et essayent de voir comment muscler l'arsenal juridique contre l'IA parce qu'un acteur vit de son image et de sa voix. Donc si on lui vole et qu'on ne le rémunère pas, c'est un vrai problème.
Selon l'avocate, faire de son visage et de sa voix une marque est également possible en France. Une plainte pour usurpation d'identité peut même être déposée dans certains contextes.
Et pour terminer, l'année 2025 se classe au quatrième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées en France depuis qu'on mesure les températures en 1900. Une température au-dessus des normales de saison sur deux. Un jour sur deux a été mesuré d'ailleurs l'année dernière.
Chaud devant, voici Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Il va nous parler de Macron en chef de guerre et grand défenseur du Groenland. Lénaïque, je vous souhaite un bon week-end. Radio Classique, 8h08.
Partout en France, la Fondation du patrimoine fédère les énergies pour sauver une chapelle, un moulin, un lavoir, une forêt, pour rouvrir un musée ou restaurer un théâtre. Ensemble, soutenons la Fondation du patrimoine. Donnons un avenir à notre histoire. Et tous les jours, sur Radio Classique, retrouvez des personnalités qui témoignent de leur attachement à leur lieu de cœur dans Au cœur du patrimoine avec la Fondation du patrimoine. Vous aussi, partagez votre passion. Faites un don sur fondation-patrimoine.org.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Peugeot. Impossible de résister aux leaders de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2 500 €. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corsa avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 € et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 € déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, Macron en chef de guerre vers le Groenland. Et puis ensuite, le biographe de Paul Bocuse, livre événement, Bocuse par Gauthier de Battistella, ancien chef éditorial du Guide Michelin.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 € par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h12. Bonjour Guillaume.
Bonjour David.
Avant le chef de cuisine, le chef de guerre. Conseil de défense sur le Groenland appelle à un effort supplémentaire lors des vœux aux armées. Est-ce le retour de Macron donc en chef de guerre?
Ah, écoutez, c'est évidemment l'actualité hein, qui l'y oblige avec les prétentions des États-Unis sur le Groenland, mais une actualité qui, il faut le reconnaître, valide le plaidoyer ancien et constant d'Emmanuel Macron en faveur d'un côté d'un effort budgétaire accru en faveur des armées françaises et de l'autre en faveur d'une Europe qui affirmerait sa souveraineté et son autonomie par rapport notamment à la puissance américaine, d'où son plus vite, plus fort, proclamé hier lors de ses vœux armés à Istres.
Mais pensez-vous qu'en décidant l'envoi de militaires au Groenland, il aura l'opinion française derrière lui?
Bah écoutez, regardez quand même hein, l'évolution de l'opinion. Quand il y a à peine quelques mois, Emmanuel Macron avait évoqué la présence de troupes au sol en Ukraine, beaucoup l'accusaient de jouer les va-t-en-guerre et de contribuer ainsi à la montée des dangers. Là, alors certes, il n'est pour l'instant question que d'une quinzaine de chasseurs alpins qui partiraient au Groenland dans une opération de dissuasion, mais symboliquement, ça n'est déjà pas rien. Cela montre que la France, et plus largement l'Europe, sont prêtes à jouer le bras de fer avec les États-Unis. Or, vous noterez qu'aucune voix ne s'est élevée pour critiquer cette décision. On peut voir la preuve que l'opinion et la classe politique française dans son ensemble ont pris conscience qu'il fallait à la fois se préparer, résister, voire riposter aux menaces. Alors l'accumulation des crises, hein, l'Ukraine, le Venezuela, l'Iran, le Groenland et leur accélération contribuent à renforcer ce sentiment d'urgence. L'opinion a compris qu'il n'existait plus de parapluie tenu par d'autres au-dessus de nos têtes et qu'il fallait donc assumer nous-mêmes notre défense.
Mais si, comme vous le dites, l'opinion est prête à cet effort de défense, la question demeure, la France en a-t-elle les moyens?
Eh bien oui, c'est en effet la question et c'est là que l'on retombe sur notre débat budgétaire franco-français. Car pas de budget, Pas de quoi faire la rallonge de 3,5 milliards d'euros, rallonge prévue à la loi de programmation militaire et que Emmanuel Macron avait promis en juin dernier. Et c'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron, dans ses vœux aux armées, a sommé le Parlement d'adopter d'ici au 14 juillet l'actualisation de la LPM, d'où aussi son souhait d'une mise en œuvre rapide du nouveau service militaire. Mais allons plus loin. La puissance d'un pays, sa capacité à se faire entendre et à se faire respecter dans le monde, ce n'est pas uniquement une affaire d'arsenal militaire. Un pays puissant, c'est un pays puissant également sur les plans démographiques, économiques, financiers, commerciaux. Et malheureusement, en ce qui concerne la France, on en est de plus en plus loin.
Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Mon cher Guillaume, bon anniversaire. Vous avez 200 ans au Figaro.
Et,
et vous les portez très bien. Vous êtes toujours en pleine forme. Je vous dis à lundi bon week-end. Et maintenant, l'invité de la matinale. Il a été responsable éditorial du Guide Michelin. Il est chroniqueur gastronomique. Et sa biographie de Paul Bocuse est le roman qui se dévore à pleine bouche en cette rentrée littéraire du mois de janvier. Gauthier Battistella, bonjour.
Bonjour David.
Merci d'être venu au micro de Radio Classique parler à nos auditeurs qui, je pense, d'ici 15 minutes, auront une faim de loup. Vous racontiez l'histoire imaginaire d'un chef qui se suicide dans votre livre précédent, un récit qui faisait peut-être écho au suicide de Bernard Loiseau. Cette fois, vous vous attaquez à une figure bien réelle, presque écrasante, Paul Bocuse. Pourquoi avoir néanmoins choisi de qualifier ce livre de roman plutôt que de biographie? Parce que Paul Bocuse, c'est un héros de roman?
Parce que le roman est le seul à même d'embrasser la vie folle et complètement dingue de Paul Bocuse. C'est-à-dire qu'il faut replacer les choses telles qu'elles sont. Paul Bocuse va avoir 1000 vies. C'est le petit gamin des bords de Saône qui va devenir le cuisinier du siècle. C'est la transformation du petit poussé en ogre. Et donc le roman ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Le roman se glisse dans les interstices. Et je vais vous raconter, quand je suis allé interroger les copains de Paul Bocuse, tous me racontaient des anecdotes. Et ces anecdotes, souvent, étaient à peu près les mêmes au mot près. Et j'ai compris une chose, c'est que derrière, il y avait quelqu'un qui avait écrit ce roman avant moi, c'était Paul Bocuse. Donc, lui-même se rêvait en personnage de roman.
Il avait déjà le sens du storytelling, c'est-à-dire bien avant les chefs d'aujourd'hui qui vous racontent leur grand-mère, qui vous racontent leur terroir et qui incarnent et qui portent leur cuisine pour passer à la télévision, pour faire des livres, etc. Paul Bocuse avait compris ça. C'est quand même un homme qui est né dans les années 30 et qui a connu tous les présidents de la République française, de la 4e et de la 5e.
Oui, absolument. Je pense qu'il a inventé le cuisinier moderne. Et ce que vous dites à propos du storytelling, c'est passionnant parce que Paul Bocuse, c'est un peu l'homme paradoxe. C'est-à-dire, c'est un timide qui a appris à maîtriser la télévision. C'est un homme qui était particulièrement attaché à la Saône, à son terroir et qui va se déployer dans le monde entier. On en parlera. Et puis, c'est un homme qui a donné quand même ses lettres de noblesse au métier de cuisinier. Il faut voir que dans les années 50, quand même, les cuisiniers étaient au sous-sol et il les a mis sur la scène. Il les a fait remonter.
Quand vous dites au sous-sol, c'est vraiment au sens propre.
Les
cuisiniers étaient cachés.
Ils étaient cachés. Les patrons, c'était qui? C'était les directeurs de salle. D'ailleurs, quand on allait au restaurant, on disait, on va chez Monsieur Albert. Monsieur Albert, c'était le directeur de salle. Et Bocuse dit, c'est pas normal qu'on connaisse le nom du voiturier et du directeur et pas celui de cuisinier. Et on va l'appeler Monsieur Paul.
Et vous le dites dans le livre, les cuisiniers à cette époque, ils sortaient de leur cuisine quasiment noire de charbon et de graisse. Enfin, c'était pas du tout le costume et la toque immaculée.
Ils buvaient les vins de sauce et ils avaient une espérance de vie très courte. Le père de Paul Bocuse meurt à 51 ans, Fernand Point à 53 ans. Il a redonné la noblesse au métier de cuisinier, mais il faut bien voir une chose, c'est que Paul Bocuse aussi est arrivé, l'histoire l'a aidé. Il arrive à un moment de rupture. C'est-à-dire que il s'engage en 1945, il est blessé à la guerre, on lui transfuse du sang américain, on lui tatoue un coq sur l'épaule. Et donc, partant de là, il se dit, j'ai plus rien à perdre. Il a cette phrase, il dit, il faut travailler comme si on devait vivre 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain.
Alors, il va travailler énormément et là, il est temps de nous mettre en appétit. Pourquoi est-ce le plus grand cuisinier du siècle si on laisse de côté le développement international, la communication, le storytelling, la vie privée aussi qui est romanesque et on va en parler? Mais là, il faut nous faire entrer dans la cuisine de Paul Bocuse et nous dire qu'est-ce qu'on mange, pour le dire vulgairement.
Alors, il faudrait juste ajouter une chose, parce qu'on voit en Paul Bocuse un chef balsacien, lui vient d'une longue lignée de cuisiniers, puisqu'on trouve un certain Michel Bocuse, en 1765, qui était meunier et qui cuisinait déjà de la petite friture. Et vous savez quoi, cette petite friture, son père Georges, déjà, la servait encore sur les bords de Saône. Alors, Paul Bocuse, il est l'héritier d'une longue lignée et de cuisiniers. Il a été formé par des mères, par la mère Brasier notamment. Et la mère Brasier, c'est quoi, David? C'est la poularde de demi-deuil, évidemment, qu'il a apprise de la mère Filloux.
La poularde de demi-deuil, il faut dire ce que c'est, tout le monde en a pas
envie. Alors on va expliquer, voilà. Ce sont les quenelles de brochet aussi. Ouais. Alors la poularde de demi-deuil, on prend une belle poularde, vous, sous la peau, vous glissez des petits écus de truffes noires. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut la faire en vessie de porc. On la met à l'intérieur avec des pis de légumes, et comme ça, les chairs se gorge du goût de la truffe.
Et dans la vessie, ça va cuire à l'étuvée.
Ça cuit à l'étuvée. On amène la vessie sur la table et ensuite on plonge un couteau à l'intérieur. La vessie s'ouvre et la chimère sort.
Et ensuite, voilà. Ça fait pchit. Alors, il y a eu un débat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Bocuse a été le fer de lance de la nouvelle cuisine et en même temps, il a dit la nouvelle cuisine, c'est fini. Ça, vous le dites dans le livre, c'est sa façon à lui d'absorber toute la cuisine française parce que très vite, il a voulu devenir le patron.
Oui, alors, il faudrait raconter un petit peu ce qu'est la nouvelle cuisine. Ce sont deux journalistes, Gouet et Millot, qui arrivent chez Paul Bocuse un soir et ils goûtent une salade de haricots verts. Alors, avec des échalotes, il avait fait la petite salade de haricots verts de sa grand-mère. Et là, il s'est écrit, la nouvelle cuisine existe, je l'ai rencontrée.
Avec une salade de haricots verts.
Avec une salade de haricots verts. Donc, la nouvelle cuisine existait déjà, en quelque sorte. C'est le moment du nouveau roman, de la nouvelle vague, on voulait de la nouveauté. Et Paul Bocuse s'est dit, c'est quoi ces deux marioles, là? Mais il sent qu'il peut être dépassé par ça. Parce qu'il ne fait pas de la nouvelle cuisine. Lui, il fait de la cuisine des os et des arêtes.
Il y a de la sauce, il y a 200 grammes de beurre et ou de crème.
Par personne.
Par convive.
Par convive, absolument. Wow. Et donc, il amène sa bande, ses copains, c'est Gérard Troisgros. Ils se disent, bon, on va être la nouvelle cuisine, la grande cuisine française. Et au moment où elle commence devenir ringard, il lui dit, la nouvelle cuisine n'existe pas. On n'est pas là pour être le showroom des porcelainiers. Voilà.
Ce qui veut dire que il maîtrisait non seulement sa communication, mais c'est un homme qui a eu une prise sur la cuisine française. Et il avait un territoire un peu comme un parrain, il faut dire les choses. Vous le dites dans le livre, il avait quasiment un droit de vie et de mort sur l'ouverture ou la fermeture des brasseries, des restaurants. Lui-même a évidemment décliné son concept et la marque Paul Bocuse. Mais si on voulait faire un restaurant de bonne tenue à Lyon, il fallait baiser la babouche du parrain.
Honnêtement, il n'y avait pas un restaurant à Lyon qui ouvrait sans l'ascendant de Paul Bocuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pizzeria qui ouvrait sans qu'on lui demande son avis. Il avait complètement quadrillé Lyon avec ses brasseries. Et c'est vrai que quand on va interroger ses apprentis aujourd'hui, tous travaillaient dans la terreur. Un jour, il y a eu des brioches qui étaient trop cuites. Ils les ont avalées brûlantes pour pas qu'ils s'en rendent compte. C'était les pots de mayonnaise sur la tête. Voilà, c'était une autre période.
L'un des chefs des cuisines a refusé de servir sa fille, vous le dites dans le livre. Mmh. Il a été viré ou battu immédiatement. Mmh. Enfin, ça s'est très mal passé pour lui. Alors, il y a cet ancrage lyonnais et cette, évidemment, incarnation française. Il y a les contacts avec tous les chefs d'État. Il y a des anecdotes avec De Gaulle et Giscard qui sont incroyables.
Oui, alors, le général De Gaulle, il le voit le 23 mars 1968. Voilà, c'est le moment où la France s'ennuie, vous vous en souvenez. De Gaulle inaugure les chrysanthèmes, il va à Lyon. Alors, il picore, De Gaulle, il aime pas trop manger. Et pourtant, il goûte à la poularde dont on a parlé. Et en partant, il dit à Bocuse, vous la méritez, cette étoile. Alors, Bocuse, il dit quoi? De quoi il parle? Tout le monde sait qu'il a eu 3 étoiles.
Mais surtout qu'il les a depuis très très longtemps, là. Enfin,
il les a depuis trois ans. Et De Gaulle, ce qu'il voulait dire, c'est que lui, le général 2 étoiles, gratifiait le chef 3 étoiles de cette étoile supplémentaire. Voilà.
Il y a le développement international, c'est important, qui va permettre à Bocuse d'aller au Japon, d'aller aux États-Unis, et tout ça avec des femmes. Il faut dire les choses, Bocuse s'est beaucoup appuyé sur les femmes pour sa carrière, pour sa vie sentimentale. Il les a aimées au-delà de la raison.
Oui, Paul Bocuse a couché pour réussir, je crois qu'on peut dire ça. Il a eu trois femmes qui ont joué un rôle majeur dans sa carrière. Il y a eu Raymonde, la première, qui est la maman de Françoise. Puis il y a eu Ramone. Et il y a eu Patricia, qui s'est développée sur le plan international. Mais ça, ce sont les trois femmes connues, si vous voulez, les trois femmes qu'il a reconnues. Mais il y en a eu plein d'autres. À un moment, il a cette phrase avec une journaliste américaine. Il lui dit, si tu me mets sur la couverture du magazine, moi je te mets sous la couverture.
Ah ouais, donc c'était pas toujours très élégant.
Il y a cette femme japonaise aussi, puisqu'il a quand même conquis, j'espère qu'on aura le temps d'en dire deux mots, il a conquis le Japon, il a ouvert le Japon au chef français, il a ouvert la France au chef japonais, il est parti aux États-Unis, et donc il s'appuie sur une dame japonaise extrêmement riche, avec laquelle il va ouvrir cette adresse. Elle tombe littéralement amoureuse de lui, et un soir il se fait appeler, il descend devant le bâtiment où il dînait avec ses amis, il y a une Rolls couleur lit de vin, et à l'intérieur il ouvre, les sièges sont en cuir de beurre frais, et elle lui dit, voilà monsieur Paul, c'est parce que je sais que vous aimez beaucoup le Bordeaux, donc elle est couleur Bordeaux, et à l'intérieur, beurre frais comme la sole Fernand Poix.
Elle lui offre la Rolls.
Elle lui offre la Rolls.
Alors, parlons des étoiles quand même, parce que vous n'avez pas évoqué l'épisode, puisqu'il meurt avant, il meurt en 2018, me semble-t-il, Paul Bocuse. Et puis, il va perdre sa troisième étoile peu de temps après. Et là, c'est à l'ancien responsable éditorial du Guide Michelin que je m'adresse, même si vous n'êtes pas responsable de cette dégradation. C'est un séisme pour toute la gastronomie, et c'est un message que le Guide Michelin envoie au secteur.
Alors plutôt que séisme, je dirais que c'est une déflagration, oui. Et dans la région de Lyon, ils l'ont très mal vécu, puisque Paul Bocuse là-bas appartient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle un restaurant générationnel. Tout le monde va manger. On se souvient de la banderole qu'ils ont déployée, même Stade Gerland, en disant Monsieur Paul, vos étoiles brillent encore dans nos yeux. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à la fin, le restaurant ne tenait plus ses trois étoiles que par le corps abîmé du patriarche qui s'en allait. Voilà, il est incarné à ce point. Et il faut noter aussi que le jour de l'enterrement, Monsieur Paul se fait enterrer avec ses trois étoiles. Alors, sans doute, peut-être Gwendal Poulenec a-t-il lu...
Le directeur général du Michelin.
Absolument, un message. Et je crois aussi que c'est un message qui est moins adressé au restaurant de Collonges qu'à tous les autres chefs trois étoiles, en disant, désormais, maintenant, fini de rigoler. C'est-à-dire que tout est possible. Si on dégrade Paul Bocuse, vous pouvez être le prochain sur la liste.
Ni monopole, ni rente de situation. Un dernier mot, quel est l'héritage de Paul Bocuse ? Alain Ducasse, c'est le nouveau patron. Enfin, c'est un peu le même profil de développement international, de toujours chercher la qualité des produits, le sourcing, etc. Mais Bocuse, lui, il est entré dans l'histoire. C'est un mythe. Mais quel est l'héritage pour la cuisine française ?
Il est au-delà de l'histoire maintenant, Paul Bocuse. Alors moi, je pense que justement, vous parliez d'Alain Ducasse, il n'y a plus de patron. Bocuse a disparu, finalement, l'empereur parti, il y a des seigneuries qui peuvent être les Bretons, les Savoyards, ça peut être les meilleurs ouvriers de France, il n'y a plus de patron dans la gastronomie.
Même Alain Ducasse,
ouais. Ouais. Il y a des d'excellents chefs français. L'héritage, c'est le cuisinier moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui.
En France et à l'étranger.
En France, c'est-à-dire qu'en France, qu'est-ce qui nous reste ? Le luxe peut-être et la haute gastronomie.
Gauthier Battistella au micro de Radio Classique. Bocuse, tout simplement, ça vient de paraître chez Grasset. C'est absolument passionnant. Je l'ai dévoré. Vous lisez ça comme une épopée et à chaque page, évidemment, vous avez envie de faire la cuisine ou d'aller casser la croûte. Merci Gauthier Battistella. À très bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui. Géraldine Vosner, Jean-Marie Colombani, Radio Classique. Il est 8h27.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement, à partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voire Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pensez à covoiturer.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Eco, Valtus réalise plus de 1 000 missions chaque année.
Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins.
qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX. Notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le Dr Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant ? DS Automobile présente DS3 DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 355 € par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Investisseurs actifs. Avec Bourse Direct, réveillez votre trading avec la gamme Morgan Stanley. Plus de 250 000 varans, turbos, certificats en exclusivité, des sous-jacents inédits sur les thématiques de demain. Offre disponible uniquement chez Bourse Direct. De plus, vos frais de courtage sont gratuits toute l'année. Avec Bourse Direct, vivez la bourse autrement. Produit à effet de levier présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Communication promotionnelle.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 € par mois avec 5 740 € de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700 €. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le rappel des titres à 8h30.
Il n'y aura pas de discussion sur le budget aujourd'hui et lundi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement renonce à soumettre le texte au vote des députés, faute de majorité. Deux solutions, soit un 49-3, soit un budget par ordonnance. Ce serait d'ailleurs une première. Les négociations vont donc continuer avec le Parti Socialiste, la droite et le Bloc Central. Un possible conseil des ministres pourrait donc se tenir ce week-end. Des concessions aux médecins après leur grève, le gouvernement cède sur une de leurs revendications majeures, la suppression des objectifs de réduction de prescription fixés par l'assurance maladie. Par ailleurs, le gouvernement renonce aussi aux mesures qui permettent aux autorités sanitaires de fixer unilatéralement les tarifs des consultations. Et puis la prix Nobel de la paix reçue à la Maison-Blanche hier, Maria Machado a offert sa médaille à Donald Trump qui a salué un geste magnifique. Maria Machado, opposante vénézuélienne, a soutenu l'intervention américaine, même si les États-Unis l'ont écartée de la transition.
Charles Bonner, je vous dis bon week-end à lundi. Alors, tout de suite, Hervé Gattegnaud, il est 8h32, vous écoutez Radio Classique, c'est la revue de presse. Hervé, bonjour.
Bonjour.
L'actualité est un recommencement aujourd'hui.
Comment recommencer ? La question est posée en couverture et dans un excellent dossier par Philosophie Magazine. Les lundis matins, les anniversaires, la déclaration de revenus, les vacances. On pourrait ajouter à la liste les débats budgétaires, les foucades de Donald Trump, les interrogations sur la faiblesse de l'Europe. Notre vie est construite sur ces éternels retours que nous vivons comme des routines, mais que nous pourrions habiter de façon créative. Philosophie Magazine nous invite donc à faire du neuf avec du mieux, en nous inspirant des grands penseurs. Car recommencer, ce n'est pas forcément refaire la même chose. Pour Descartes, c'est plutôt refonder, c'est-à-dire faire table rase de ce qu'on croyait savoir grâce au doute méthodique. Pour Gilles Deleuze, c'est répéter, mais au sens du théâtre, redire les mêmes vers pour s'améliorer, sans jouer vraiment la même pièce. Et pour Kierkegaard, c'est reprendre, c'est-à-dire revivre ce que l'on a vécu et s'en réjouir, du moins essayer. Voilà qui donne à penser, ce qui est bien le moins. moins pour un mensuel de philosophie.
Avec une pensée émue pour Sisyphe, évidemment. On apprend en lisant le journal L'Opinion qu'Emmanuel Macron a tenté de sauver in extremis la réforme des retraites.
Réforme suspendue, on le sait, à la suite d'un accord entre Sébastien Lecornu et les socialistes, ce qui a permis au Premier ministre d'éviter la censure. Avant lui, François Bayrou avait déjà négocié un répit avec les socialistes en organisant une consultation des partenaires sociaux sur les retraites. C'était le fameux conclave. Aucune fumée blanche n'en était sortie et pourtant, la CFDT avait implicitement accepté à ce moment-là le report de l'âge de départ à 64 ans. Mais la CFDT exigeait des contreparties sur la pénibilité, le MEDEF a refusé. Et bien selon le journal L'Opinion, c'est ce conclave qu'Emmanuel Macron a tenté de relancer durant la première quinzaine d'octobre, il y a 3 mois donc, dans l'espoir de sauver la réforme, sa réforme des retraites. Le président a reçu tour à tour la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, et le président du MEDEF, Patrick Martin, pour les convaincre. Patrick Martin a dit « niet ». C'est donc l'histoire d'un recommencement et d'un flop.
Le procès de Marine Le Pen maintenant. Le procès de Marine Le Pen et des dirigeants du Rassemblement National se poursuit. La défense a marqué un point hier.
L'appel d'une condamnation, c'est le recommencement du procès. On repart de zéro. Même dossier, juge différent. Et les prévenus peuvent se défendre autrement. C'est ce qu'a choisi de faire Marine Le Pen en faisant cette fois profil bas. Je vous en ai parlé cette semaine. Les journaux l'ont raconté mercredi. Le tout dans une atmosphère plus feutrée, écrit ce matin le chroniqueur judiciaire du Figaro, avec en plus la perspective d'un coup de plumeau du tribunal, écrit-il, coup de plumeau qui pourrait, après l'accord donné, hier par le parquet général, abandonner l'accusation sur un certain nombre de contrats d'assistants litigieux. Attention, prévient le Figaro, l'attitude conciliante du parquet général peut dissimuler une stratégie qui viserait à couper les branches les moins solides de l'accusation pour mieux soutenir les charges les plus accablantes contre Marine Le Pen. Le Monde fait à peu près le même raisonnement, si bien qu'on peut se demander si les deux chroniqueurs judiciaires ne boivent pas à la même source. Le procès doit durer jusqu'au 12 février, on verra bien.
Pendant ce temps, le feuilleton du Groenland continue et la tension monte entre les Européens et Donald Trump.
La manchette de West France en témoigne, le Groenland sous tension. Les envoyés spéciaux du quotidien à Nuuk décrivent le réveil fébrile de la paisible capitale du Groenland après l'arrivée des premiers soldats européens. En page intérieure, West France ose même cette formule façon libération. Au Groenland, le déploiement militaire allié jette un froid. Groenland, Macron ose la réplique militaire. Titre L'Opinion, après le discours de vœux du président aux armées hier, qu'Emmanuel Macron a prononcé sur un ton offensif et avec des lunettes de soleil à la Top Gun. À cause d'un problème à l'œil, un vaisseau sanguin qui a éclaté, a dit l'Élysée aux journalistes. Le président, lui, dans son discours, a invoqué une référence à l'œil du tigre, c'est-à-dire Sylvester Stallone plutôt que Tom Cruise.
Vous nous faites retomber en enfance, là.
Oui, vous avez reconnu la musique de Rocky. Espérons que tout cela ne se termine pas sur un ring. Le Figaro indique en tout cas que l'intérêt de Trump pour le Groenland ne date pas d'hier. Le quotidien évoque même une idée fixe du président américain et raconte que quelques jours avant sa deuxième investiture en janvier 2015, un jet portant son nom s'était posé à Nuuk, à bord duquel se trouvaient son fils et un petit groupe d'hommes d'affaires. À lire les sondages, cette obsession de Donald Trump est assez personnelle. Seuls 17% des Américains se disent favorables à la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis.
On termine avec l'autre pays qui est au cœur de l'actualité, c'est évidemment l'Iran. Plusieurs journaux brossent le portrait de l'héritier du Shah, dont le nom est scandé dans les manifestations.
Il s'appelle Reza Pahlavi, il a 65 ans, il vit en exil à Washington. Et c'est de là que le 7 janvier, il a lancé sur les réseaux sociaux un appel à la résistance des Iraniens contre les Mollahs. Depuis, raconte Le Point, cet homme longtemps décrié pour ne pas avoir pris ses distances avec le régime autocratique de son père, parfois critiqué pour ne jamais avoir occupé un vrai emploi, cet homme est pris au sérieux en Iran. Le Point voit en lui un possible recours. Mais ce recours serait-il un retour, celui de la monarchie? Le Nouvel Obs qualifie Reza Pahlavi d'encombrant héritier, lui qui s'est proclamé roi en 1980 après la chute de son père, qui régnait lui-même sur l'Iran depuis 1941. Le Nouvel Obs souligne aussi sa proximité avec les partisans de Trump, son rapprochement avec Netanyahou et sa présence l'an dernier au rassemblement des ultra-conservateurs américains. Il y avait pris la parole aux côtés de Javier Milei, Giorgia Meloni, Elon Musk et Donald Trump lui-même. Raison pour laquelle, dans Libération, un géopolitologue le qualifie ce matin d'imposteur providentiel et le soupçonne de vouloir revenir comme son père dans les valises de l'oncle Sam. N'est-ce pas trop vite crié au loup? Pour l'instant, la tyrannie des mollahs tient encore et peut-être qu'un jour, les Iraniens auront le choix de leur propre recommencement.
La revue de presse, c'est un éternel recommencement, donc vous êtes
oui,
contraint.
Oui, mais chaque jour différent.
Ah bah oui, bah heureusement, hein, c'est un peu d'ailleurs le lot de la radio, vous revenez donc lundi.
Mais certainement.
Et vous recommencez. Merci Hervé.
Bon week-end.
À suivre nos esprits libres aujourd'hui, Géraldine Vosner, Jean-Marie Colombani. Il est 8h39, vous écoutez Radio Classique et nous vous en remercions.
Samedi prochain, retrouvez la chronique Bleu comme le monde avec Caroline Forge.
Cette semaine, je vous propose de découvrir une innovation technologique qui, grâce à l'IA, détecte les fuites sur les réseaux d'eau.
Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
On est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein. Elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Envie de confort? Envie de choix? Envie de grande marque? Envie de Topair?
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Néologie, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies. 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr.
Imaginez un monde sans la maladie d'Alzheimer.
La Fondation Recherche Alzheimer est le premier financeur à soutenir les avancées sur cette maladie qui touche 1 million de personnes. Léguer à la Fondation Recherche Alzheimer, c'est préparer pour les générations futures un avenir sans Alzheimer grâce à une recherche d'excellence.
Legs, donation ou assurance vie, pour soutenir la Fondation Recherche Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière, appelez le 01 42 17 75 23. Rendez-vous sur alzheimer-recherche.org.
Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX. Notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pensez à covoiturer.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h42, c'est l'heure d'Esprit Libre sur Radio Classique avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Géraldine, bonjour.
Bonjour David.
Et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova, qui a un succès d'audience inégalé, inespéré. Enfin, félicitations, hein, les dernières vagues d'audience.
Inespéré, espéré quand même.
Oui, mais enfin bon, il faut. Moi, j'ai écouté une émission de philosophie l'autre jour, elle disait qu'il ne faut pas espérer parce qu'on est toujours déçu. Donc voilà.
Donc, voilà
en tout cas. Pas désespérant en tout cas, le résultat. Félicitations donc. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous sur Radio Classique avec Géraldine et on va parler de Macron, chef de guerre. Alors, c'est pas la première fois qu'il se pose en chef de guerre. Il adore ça ou le faut-il aujourd'hui être chef de guerre?
C'est en tout cas adapté de montrer les muscles. Chef de guerre, bon, on va redescendre un peu. Il s'agit surtout d'une opération d'exercice au Groenland, auquel la France va participer. C'est une petite opération, mais l'Europe ne pouvait pas rester bras ballants face aux menaces répétées d'un Donald Trump qui est complètement imprévisible dans la région et que personne ne comprend.
19 chasseurs alpins et un consulat ouvert au Groenland. Si c'était pas si grave, on en rigolerait parce que, en fait, c'est un jeu de dupes. Les Européens vont au Groenland non pas pour se défendre contre Trump, mais pour défendre le Groenland en soulageant Trump de cette charge stratégique.
Oui, mais en même temps, on est là dans le registre diplomatique par définition, c'est-à-dire on joue avec des symboles et le symbole est important. Le symbole de voir qu'un certain nombre de pays membres de l'OTAN envoie quelques soldats significatifs pour montrer que voilà, ça ne se fait pas de revendiquer comme ça la propriété d'un territoire alors même qu'on est membre de la même alliance. Je veux dire, le symbole fonctionne à plein et donc d'ailleurs avec un large soutien de l'opinion américaine parce que 75 ou 76% des Américains désapprouvent l'attitude actuelle de Donald Trump. Mais ça nous renseigne sur Trump quand même, parce que quand son slogan Make America Great Again, le grand dans son slogan, ça veut dire des territoires en plus. Ça veut dire on s'élargit, on s'agrandit. C'est ça que ça veut dire. Et donc on n'avait pas perçu ça tout de suite.
Pourtant il l'a dit dès son investiture.
Dès son investiture, il y avait le Panama, il y avait le Canada et il y avait le Groenland. Donc voilà.
Mais c'est incompréhensible. C'est aussi pour ça les Européens sont vraiment sur une ligne de crête. La démarche de Donald Trump n'a pas de rationalité, si vous voulez. C'est très compliqué de construire une réponse adaptée. Que le Groenland soit stratégique pour les États-Unis, pour lui, oui, c'est une réalité. Mais dans ce cas, ça serait au top des priorités des stratégies américaines et de renseignement. Les derniers documents de sécurité nationale, celle de novembre, je crois, 2025, oui. C'est même pas mentionné. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez une vraie menace imminente, il a une base sur place. La première démarche, c'est peut-être de renforcer d'abord votre présence humaine et matérielle sur place, plutôt que de faire des grandes déclarations comme ça, politiques, spectaculaires. Quand vous regardez les échanges commerciaux, si c'était important, ça se traduirait dans les chiffres des échanges commerciaux. Le Danemark est le premier partenaire commercial du Groenland. Ok, le deuxième, c'est la Chine ensuite. Il y a l'Allemagne, le Japon, il n'y a pas les États-Unis dans le top 10. Donc ça veut dire depuis 15 ans, il n'y a pas eu de lien forgé. Donc en fait, tout ça tombe de manière immédiate, extrêmement brutale, absolue. Je prends. Alors que finalement, rien n'a été fait depuis 10 ans. Donc c'est très difficile pour les partenaires des États-Unis. Ça reste, ils sont alliés.
Mais ils se vivent comme partenaires, mais ils ne le sont plus.
C'est toute la question.
Écoutez, la défense américaine est aussi, par exemple, dans le cadre du traité du NORAD, le traité Canada-États-Unis pour surveiller justement l'espace aérien dans le Nord. Ça fonctionne toujours. Ça, donc les implications géostratégiques pour Trump d'une action au Groenland, elles sont dommageables pour lui. Le premier avantage de cette alliance, enfin des États-Unis par rapport à la Russie et à la Chine, c'est justement ce système d'alliance. Donc on a du mal à comprendre la rationalité en fait de sa démarche.
Est-ce qu'il veut être trophée ? Il y a deux éléments, un immédiat et l'autre à plus long terme. Dans l'immédiat, il faut écouter les chefs militaires américains qui considèrent que c'est c'est totalement, l'attitude de Trump est totalement contraire à la doctrine de dissuasion et de défense des États-Unis, laquelle repose sur un tissu de base militaire universelle sur l'ensemble de la planète. Il y a 128, je crois, grandes bases américaines au total dans le monde, qui sont abritées par une cinquantaine de pays. Et si on y ajoute les plus petites bases, que les grandes bases telles que celles qui existent au Groenland, on arrive à un chiffre beaucoup plus important, évidemment, et à quelque chose comme 80 pays. C'est là-dessus, c'est sur ce réseau-là que repose la défense américaine. Et les généraux américains disent on n'a jamais besoin de la propriété de ces bases. On passe des accords de défense, mais on n'a pas besoin de la propriété. Pour la propriété, il faut être versé dans la promotion immobilière comme les Donald Trump pour penser qu'il faut s'agréger ce territoire-là. À plus long terme, je trouve que à chaque jour qui passe, renforce ma grille de lecture là-dessus. Parce que, au fond, quel est le projet de Vladimir Poutine ? D'effacer l'OTAN, d'effacer l'Union européenne. Et que fait Trump en ce moment ? Il est en train de détruire l'OTAN. Donc il va à la rencontre très précisément de ce qui est l'objectif stratégique de Vladimir Poutine, reconstituer l'Empire soviétique et donc mettre fin à l'existence de l'OTAN. Or là, il fait un acte politique qui peut détruire l'OTAN et qui va probablement détruire l'OTAN. Donc il est là au devant des objectifs stratégiques de Poutine, alors qu'il est censé porter l'héritage d'un Ronald Reagan qui a vaincu l'Union soviétique. C'est là que ce paradoxe historique majeur qui fait que je pense que Donald Trump, s'il va au bout, restera dans l'histoire américaine comme celui d'une Amérique plus petite.
S'il va au bout, comme vous le dites. Mais pour l'instant, comme je ne vois aucune rationalité vraiment à cette démarche, j'ai des doutes. En tout cas, puisque c'est la question de départ, la réponse européenne et celle d'Emmanuel Macron me paraît adaptée à la situation. Il ne faut pas oublier que l'Europe a quand même, même à long terme, un petit peu de levier, elle a des leviers, c'est un énorme marché pour les entreprises américaines, même si elle est faible militairement et qu'elle ne pourra pas s'opposer à une entreprise de Donald Trump s'il décide effectivement, je sais pas, d'envahir le Groenland. D'autres ont des leviers, hein. C'est pareil pour le Canada, le Canada fournit une grande partie de l'électricité, de l'eau douce au nord des États-Unis.
Trump a déjà reculé sur le Canada.
Oui, mais alors là, s'il envahit le Groenland, les Canadiens seront pas contents non plus, parce qu'ils sont aussi partie de cette alliance. Donc, je pense qu'il est urgent d'attendre quand même, tout en restant vigilant ce que fait exactement l'Union européenne.
Hervé Gattegno parlait de l'éternel recommencement tout à l'heure dans sa revue de presse. Il y a effectivement une espèce d'éternel recommencement dans la façon dont Trump gère les dossiers. Il annonce beaucoup, il obtient peu, oui. Il recule, il réannonce beaucoup, il obtient un petit peu, et puis il passe à autre chose. C'est ce qui se passe, par exemple, sur l'Iran, où il a dit l'aide arrive, et puis rien n'arrive. Sur Maduro, certes, il a exfiltré Maduro, mais il laisse le numéro 2 en place. Donc, il y a une forme de modération dans l'excès.
Il découvre en fait ce que c'est que la géostratégie, c'est que voilà, on ne sait pas, comme dans un marché immobilier, c'est pas un face-à-face avec je prends et on fait un deal. Il y a d'autres personnes dans la partie. Sur l'Iran, il a vraisemblablement parlé trop vite avant que ses alliés dans la région rappellent à lui. Il suffit de regarder une carte. Hein,
si
l'Iran n'est pas content, il suffit à l'Iran d'envoyer un missile sur le Qatar qui est juste en face et il le détruit.
Tout en envoyant des gens au casse-pipe, hein, parce que sa formule, la cavalerie arrive, en gros, on arrive, allez-y, manifestez, protestez, ça s'est heurté, il y a eu un véritable bain de sang, alors maintenant il dit le sang ne coule plus, donc pour justifier son retrait, lequel est justifiable uniquement parce que l'Arabie Saoudite, entre autres, mais même Israël aussi, on lui a expliqué qu'il allait ajouter le chaos au chaos et qu'il était hors de question qu'il intervienne, donc il a reculé sous la pression de ses amis locaux.
Alors, il y a quelque chose de particulier, mais entre l'importance de l'actualité internationale, entre le procès de Marine Le Pen, qui l'extirpe du bassin politique, un peu avant la date, Et le feuilleton du budget, qui pour les Français est absolument narcoleptique, la vie politique française est un peu étouffée en vérité. Il y a quelque chose de neutralisant dans cette procédure budgétaire qui dure. Va-t-on en sortir ? Faut-il donner du temps au temps, comme le dit le Cornu, qui a comparé cette procédure budgétaire à un rôti bien ficelé qu'il fallait faire mijoter. Et si on devait aller jusqu'à mi-février, fallait y aller.
On pense quand même que ça a beaucoup mijoté et assez mijoté parce que c'est un feuilleton qui est devenu interminable et dont tout le monde se lasse. Le seul, mais qui est quand même relié à l'actualité parce que s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de rallonge budgétaire pour les armées et pour la loi de programmation militaire. À un moment où le président de la République, à juste titre, met l'accent sur les efforts qu'il faut faire dans ce domaine et sur la continuation d'un plan de réarmement à la fois de l'ensemble de l'Europe, mais aussi de la France elle-même. Donc le budget aussi a sa traduction dans le paysage international d'aujourd'hui. Puis le feuilleton a assez duré, on a assez fait la démonstration, le Premier ministre a suffisamment fait la démonstration qu'aucun compromis ne sortirait de cette Assemblée et que donc il faut que le gouvernement utilise les armes que la Constitution lui donne.
Géraldine ?
49-3, ce qui semble la seule solution. C'est vrai que cet attentisme de Sébastien Lecornu est assez incompréhensible. Je veux dire, voilà, ça fait des mois que ça dure. Vous disiez pas de budget pour les armées, pas de budget pour les agriculteurs. Le salon de l'agriculture doit commencer à la fin février. Il y a 300 millions d'euros qui leur ont été promis récemment. Il faut encore que ce soit voté. Alors, ça ne le sera pas. Bien sûr, il avait fait l'erreur de s'engager à ne pas utiliser le 49-3. Il y sera contraint.
Mes amis, c'est fini. Nous allons nous séparer, mais nous retrouver la semaine prochaine. On se sépare avec un hommage à la cuisine, extrait des musiques de table de Téléman. Clin d'œil à notre invité de 8h15, Gauthier Battistella, et à son Bocuse qui sort chez Grasset, biographie du chef des chefs.
Week-end, Radio Classique vous fait vivre les plus beaux concerts classiques aux côtés de Laure Maison et Jean-Michel Duez.
Le trio de Piotr Tchaïkovski, ce trio en la mineur, opus 50, composé à la mémoire du pianiste Nikolaï Rubinstein, une œuvre dont vous avez pu apprécier ce soir l'intensité, la force émotionnelle, le lyrisme, mais aussi la fougue. Et vous pouvez entendre le bonheur, l'enthousiasme du public.
Des concerts inoubliables, chaque week-end à 20h, sur Radio Classique.
Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 euros par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pensez à covoiturer.
Les jeunes voix lyriques s'apprêtent à résonner à la salle Cortot. L'École normale de musique de Paris présente son gala de la voix qui met en avant les chanteurs de demain. Une soirée placée sous le signe de l'opéra italien, dans une acoustique idéale pour accueillir la nouvelle génération et décerner deux prix prestigieux offerts grâce au généreux soutien de la Fondation Minou Amir Aslani.
Rendez-vous au deuxième gala de La Voix, le 26 janvier à 20h, en réservant sur salcorto.com.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Dans un instant, la météo, les informations de Pierre Pilet et Franck Ferrand et les grands dossiers de l'histoire.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Pierre Pilet, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous promettez un ciel couvert dans une grande partie du pays.
Mais des éclaircies quand même sur le Cotentin. Ailleurs, c'est effectivement un temps nuageux. Faibles averses ce matin sur une diagonale allant du sud-ouest à la Lorraine. De la pluie sur les Cévennes, elle s'intensifie au fil de la journée et gagne le massif central. Le Finistère est en vigilance orange Météo France pour risque de crue. Les températures maximales, 11 degrés à Lille et La Rochelle, 12 à Paris, 15 à Lyon et Nice, 17 à Ajaccio.
Avec Au cœur du patrimoine, donnons un avenir à notre histoire avec la Fondation du patrimoine.
Sophie Jovillard, bonjour. Vous allez nous parler d'un appareil fascinant, une sentinelle des mers.
Le marégraphe à Marseille existe depuis 1884 sur la corniche Kennedy. Ce marégraphe permet de mesurer le niveau de la mer et aussi de déterminer le point zéro de nos altitudes. Il y a deux marégraphes, le marégraphe totalisateur mécanique qui enregistre ces fluctuations de la mer. Aujourd'hui, il y a un deuxième système de mesure différent puisqu'il est numérique. La Fondation du patrimoine a joué et joue encore un rôle primordial pour la protection de ce lieu, du bâti et aussi de l'outil qui a été restauré par un meilleur ouvrier de France en horlogerie. Le marégraphe a une valeur scientifique et historique. Ça en fait vraiment un lieu à part.
Merci Sophie Jovillard.
Vous aussi, partagez votre passion du patrimoine. Faites un don sur fondation-patrimoine.org.